Alors c'est le 12e épisode de La Bonne Aventure. La Bonne Aventure, c'est une émission de podcast qui est réalisée par la Slow Galerie et qui interroge les artistes le matin de leur vernissage. On parle de leur exposition, leur inspiration, leur projet, leur vie. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Emmanuel Liette. Bonjour Pierre-Emmanuel.
Bonjour.
Alors t'exposes ce soir, c'est ton vernissage, une exposition qui réunit 31 dessins au crayon couleur et qui s'appelle L'Inde Haut et qui va durer jusqu'au 13 juin. Alors c'est une exposition, on est dans une sorte de jardin infini, luxuriant, dans une nature qui déborde, dans des contrées mystérieuses. Tu l'as appelé L'Inde Haut. Est-ce que tu peux nous décrypter ce titre et nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors le titre il est venu plutôt tard. Pendant très longtemps, l'expo elle s'appelait simplement Jardin. Mais L'Inde Haut, j'ai trouvé ce titre parce que c'est le cri en fait qui était poussé par les vigies sur les bateaux quand ils apercevaient une terre approchante. Et c'est quelque chose que je trouve très beau parce que déjà c'est un cri. Qui déchire l'air et le son et qui exprime vraiment la joie de découvrir une nouvelle terre, un nouvel univers à découvrir. Donc ça a convoqué aussi tout ce truc d'exploration, d'aventure, de découverte. Et c'était de ça dont j'avais envie pour cette exposition-là, en fait. J'avais vraiment envie de réenchanter par la découverte de nouveaux univers et surtout de notre nature. Donc on en parlait la dernière fois avec Jean Mallard pendant son podcast et on se disait que c'est vrai que aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir sur Terre. On a l'impression que le monde est fini.
D'en avoir fait le tour.
Voilà, d'être arrivé au bout. Et en fait, c'est une idée, moi comme Jean, je pense qu'on trouve ça très triste. Et en plus, on trouve ça pas vrai.
Ben, y a quelque chose d'assez partagé dans cette idée-là qu'on est un peu découragé du monde qui nous entoure.
C'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'on, en plus... parce que je me suis un peu renseigné sur la question et qu'il y ait des contrées qui n'aient jamais été explorées sur Terre. Et ça, il y en a vraiment qui existent.
C'était le premier sujet d'expo que tu envisageais, c'était sur ça, en fait.
Oui,
de dessiner, enfin, d'imaginer, de fantasmer sur ces terrains-là.
Sur ces terrains-là. Donc, il y en a, par exemple, à Madagascar. Il y a des choses souterraines qui existent, qui n'ont jamais été explorées. La forêt amazonienne, il y a des contrées qui n'ont jamais été explorées.
Où l'homme n'a jamais mis le pied, en fait. Il n'y a pas eu de caméra. On ne sait rien de ça.
À Madagascar, il y a un endroit où vraiment, c'est un gouffre avec des pics acérés. Et au fond de ce gouffre, il y a une forêt vierge. Et au fond de cette forêt vierge, il y a une grande partie dont on ne sait absolument rien. Il y a des espèces... endémique, inconnu, et en fait le site est protégé et ça reste un mystère. Et ça, c'est merveilleux pour l'imaginaire, bien sûr, mais c'est merveilleux aussi parce que le monde n'a pas fini de nous montrer tout ce qu'il a à nous offrir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau comme idée, en fait. Comme simple idée poétique.
Bah oui, et d'ailleurs, dans tes dessins, là, on est dedans, on est entouré par tes magnifiques dessins au crayon, ça explose de couleurs, mais il y a beaucoup de vert aussi, c'est quelque chose de nouveau. Mais tu disais, j'ai pas beaucoup représenté d'humains, parce que je voulais aussi, contrairement, parce que c'est la troisième exposition aussi, j'enchaîne sur ça, parce qu'on l'a pas dit que t'avais déjà exposé en 2020 et en 2021.
C'est vrai.
Et là, l'humain s'efface devant la nature. Et c'est l'idée aussi de dire la nature, elle n'existe sans nous. On est presque des intrus. Et elle est reine. Elle décide aussi des choses. Et nous, en fait, on fait que passer très rapidement. Et donc, dans tes paysages, l'humain est vraiment une petite silhouette fragile, perdue dans l'immensité.
Alors, c'était un peu un défi parce que quand on a fait deux expositions déjà, on fait un peu le point sur ce qu'on a déjà montré. Et moi, j'avais pas très envie de retomber dans des systématismes. J'avais fait beaucoup de dessins avec des situations, avec des personnages auxquels on peut s'identifier, des comportements, des...
C'était des scènes de vie.
Des scènes de vie, voilà, c'est ça, exactement. J'avais beaucoup travaillé là-dessus dans Mirage. C'était des univers plus urbains. Et là, alors même si c'était une volonté qu'il y ait moins de présence humaine, il y en a quand même, hein. Je pense qu'il y en a quand même presque sur la moitié des dessins au final. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me disais, je voudrais réussir à faire des dessins où le paysage, où la nature puisse exister pour elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là, et c'est le public, c'est le spectateur, c'est celui qui regarde, qui doit se sentir complètement immergé dans ce dessin, dans cet univers à chaque fois. Et donc il y a quand même des personnages, mais effectivement il y a beaucoup de silhouettes. J'ai utilisé beaucoup de silhouettes. Je les ai pas trop décrits en fait, parce que je voulais juste qu'on comprenne qu'il peut y avoir une présence humaine là-dedans, effectivement. Mais elle est pas forcément systématique. Et si elle est là, elle ne fait que passer comme une ombre, en fait. C'est vraiment... et parce que je pense que c'est ce qui se passe sur notre passage sur Terre, si je rentre dans un truc un petit peu plus métaphysique.
Mais on sent que c'est une expo très personnelle, hein. T'as dit beaucoup de choses, t'as mis beaucoup de choses de toi dedans.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, enfin, c'est vrai que les... Je pense qu'on ne fait que passer ici, et on est un peu comme des locataires, et la nature reste... le monde qui nous entoure reste pendant des années, pendant des millénaires. Et de toute manière, elle est plus forte que nous. Je dirais pas qu'on est en sursis, mais en fait, on est des voyageurs, on explore. Et ouais, c'est un passage. Donc après, à nous de gérer ce passage, à savoir quelles traces on laisse si on veut ne pas en laisser du tout. Par exemple, écologiquement parlant. Ou à nous de voir si on veut laisser quelque chose de durable. Et là, par exemple, quelque chose de durable, pour moi, ça passe par l'art, en fait. Ça passe par le dessin. Donc, quand je fais un dessin, c'est pour figer un instant et de le rendre éternel. Il y a un truc par rapport à la temporalité qui est assez important.
Ben oui, enfin, effectivement, il y a beaucoup de dessins que tu as fait, que tu disais avoir... réalisé suite à une émotion ressentie évidemment par rapport à une scène précieuse de ta vie privée, de ta vie à toi, oui, personnelle, que tu voulais saisir, et c'est ta façon, ben, le dessin à toi de le rendre éternel, comme celui, ben, c'est celui qui a été utilisé pour l'affiche.
Ouais, il s'appelle Vendredi.
Qui s'appelle Vendredi, on voit une petite fille sur un rocher, et ça c'est quelque chose que tu as vécu avec ta petite fille Paloma.
Oui. C'est une scène qui se déroule dans la Drôme, donc c'est à Châtillon-en-Diois, et ce jour-là avec Paloma, on avait construit un petit bateau qu'on a mis sur une rivière, et on a laissé le bateau partir sur la rivière, et donc c'était un moment d'excitation assez intense pour ma fille, mais c'est un moment où j'étais vraiment seul au monde avec elle. En fait, on est au cœur de la nature, il y a personne, et c'est un moment qui est exceptionnel. C'est un moment partagé qui est très fort. Et du coup, quand je l'ai vue debout sur le rocher, en train de regarder le bateau s'en aller et voir toute cette joie, bah, quand on est parent, on a envie que ça dure éternellement. En fait, on a envie que ça ne s'arrête jamais. Que ce soit pour toujours, mais c'est pas possible parce que les enfants grandissent et puis nous on vieillit, voilà. Et du coup, je pense que une partie de mes dessins sont liés à ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est une manière de figer dans le temps, de la même manière qu'un photographe pourrait prendre une photo. Moi, après, j'ai besoin de digérer ce moment et de le sublimer en fait le plus possible dans le dessin. Donc ça passe par la couleur, ça passe par une impression. Ça passe par une sensibilité à quelque chose de un univers qui est par exemple très aqueux, là en l'occurrence c'est la rivière, et c'est vrai que une fois que j'ai fait ça, j'ai l'impression que ce souvenir ne partira jamais, qu'il sera toujours là.
Mais là tout est suspendu, il y a un temps d'observation sur chacun, il y a une émotion, Et parfois, on demande aux artistes, effectivement, pourquoi tu dessines ? Quelle est ton énergie dans le dessin ? Et toi, c'est ça, en fait, c'est de saisir, de figer ou de rendre éternel des moments, des émotions vécues.
Là, il y avait, oui, c'est vrai. Et il y avait aussi beaucoup, je pense, plus qu'avant, où c'était quand même beaucoup de... Même si je m'inspirais de scènes de vie, de paysages urbains qui étaient plutôt réels.
Parce que tu habites Belleville, tu as beaucoup dessiné Belleville.
Oui, c'est ça. J'ai beaucoup dessiné.
La foule, les gens aux terrasses de café.
Exactement. C'est un univers que je connais bien. C'est mon univers quotidien. Mais là, il y avait l'envie, en fait, de dessiner la nature. C'était presque quelque chose d'impressionniste, en fait. C'est-à-dire vraiment s'attarder sur l'émotion que peut donner un paysage qui est figé, mais qui n'est pas figé parce qu'il est vivant, en fait. Mais justement, comment le rendre vivant grâce à la couleur, comment réussir à donner cette impression que tout vit autour de nous
bruit,
dans ces endroits-là.
Ça bruit, ça vit, la nature, elle est vivante, là, comme tu l'as représenté par ces petites touches. C'est évidemment impressionniste, comme tu dis.
Oui, je pense qu'il y avait il y avait vraiment l'envie de... J'avais envie de quelque chose de très foisonnant. Parce que la nature, ce qui est la forêt, ou que ce soit la forêt... alors, dans les jardins français, c'est un petit peu plus organisé, mais l'expo montre un espèce de panorama entre des jardins qu'on connaît bien, par exemple les buttes Chaumont. Il y a des jardins qui se situent à Palerme, en Sicile... ça dépend des endroits où je suis allé. Et puis, il y a carrément ça va jusqu'à la jungle, foisonnante, anarchique.
Un peu fantasmé aussi, des endroits où t'es pas allé forcément.
Des endroits où je suis pas forcément allé, des endroits qui m'intéressent, des endroits où je suis allé vraiment dans la jungle. Et en fait, c'est un peu une espèce d'inventaire de cette nature foisonnante, et j'avais vraiment un besoin viscéral de ça, de dessiner ça, de dessiner même quasiment le chaos de la nature, de dessiner quelque chose de...
Qui déborde, qui n'est pas dirigé, quoi.
Voilà, qui n'est pas... et ça devient vraiment un mécanisme de dessin aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je dessine plus en faisant une esquisse préalable, je dessine en... C'est quasiment comme de la peinture, en fait, c'est-à-dire que je dessine par touche, par impression de couleurs qui vont s'enchevêtrer les unes dans les autres.
Ça, c'est nouveau, hein, dans cette expo.
Oui, c'est nouveau.
Ton style d'avant.
C'est nouveau parce qu'en fait, ça fait partie de tout un processus que je pense qui a été entamé depuis 2 ans, où j'ai commencé à travailler parallèlement sur un projet de cinéma où on m'a demandé de me remettre à la peinture. J'ai regardé beaucoup de peinture. Je me suis vraiment remis le nez dedans et j'ai été fasciné par cette matière organique et qui a du coup beaucoup influencé mon travail de dessin au crayon.
Il y a certains dessins où on sent plus le crayon du tout derrière, en fait. Il est très moelleux, c'est écrasé, ça se diffuse, les couleurs se diffusent les unes dans les autres.
On a presque l'impression que ça dégouline.
Mais oui.
Non, mais parce que c'est, alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y a l'outil qui est le crayon, et en fait, le crayon, le problème, c'est qu'on est figé dans une gamme qui est imposée. C'est-à-dire que les pigments, ils sont ce qu'ils sont. Donc, en fait, tout le challenge, c'est de savoir comment on va réussir à créer de nouvelles nuances avec le crayon de couleur pour créer des couleurs qui n'existent pas forcément, ou des reflets, ou des harmonies. Et donc ça, j'ai utilisé plusieurs gammes de crayons. Il y a des nouveaux crayons que j'avais pas expérimentés encore. Donc il y a des crayons de couleur qui sont plus gras, qui permettent de mieux se mélanger et qui permettent une utilisation plus souple. Du coup, on est aussi plus rapide. On peut faire plusieurs couches comme en peinture. Et ça, c'est très 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 agréable à travailler. Et il y a vraiment quelque chose qui est lié au climat, c'est-à-dire que certains des dessins ont été réalisés. Quand j'étais à l'île Maurice, et il fait très très chaud là-bas, c'est très moite, et les pigments des crayons, en fait, deviennent vraiment mous. C'est-à-dire que on a presque l'impression que c'est de dessiner avec du beurre, quoi. Et du coup, enfin, du pastel gras. Enfin, ça donne vraiment cette impression-là, mais avec la possibilité d'être plus précis. Et là, vraiment. ça permet de créer des dessins et de pousser les harmonies.
On peut deviner presque lesquels ont été faits à l'île Maurice dans le rendu, justement, là, peut-être. Le petit oiseau que je prenais pour un rouge-gorge et qui est en fait un cardinal, tu disais.
Oui, c'est un cardinal.
On a vraiment l'impression que la chaleur a fait fondre les couleurs et que du coup, elles se sont mélangées les unes aux autres. C'est magnifique.
C'est ça. Et il y a cette idée de verticalité aussi. Ouais. Parce qu'en fait, dans la forêt et dans la nature, on se rend vraiment compte que, et c'est quelque chose dont j'avais pas pris conscience forcément, mais il y a une notion de verticalité à cause des troncs, tout s'élève vers le ciel en fait, tout pousse vers le ciel. Et ça c'est quelque chose de très beau, du coup, c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup dessiner de manière verticale, avec des touches qui allaient du haut vers le bas, pour donner toujours ce mouvement d'élévation vers le haut en fait. C'est vraiment ce qui nous emmène de la terre jusqu'au ciel. Alors c'est drôle parce qu'en fait quand on le dessine et à force de le dessiner on finit par se rendre compte que ça a presque des vertus spirituelles ou mystiques, mais en fait il y a vraiment ça et c'est présent partout dans la nature.
Inconsciemment, c'est inhérent, effectivement, en fait. De toute façon, effectivement, quand on s'intéresse à la nature, sans doute qu'on devient un peu mystique parce qu'elle est tellement merveilleuse. Enfin, elle nous élève vers la lumière naturellement.
Ouais.
Tout grandit par la lumière en fait. Les plantes cherchent la lumière et grandissent.
Et tout est vivant en fait.
Ouais.
Tout est vivant. On n'est jamais seul. Il y a toujours un truc. Qui est là avec nous, tout évolue, et prendre conscience de ça, s'arrêter pour le regarder, s'en rendre compte, et juste essayer de dessiner ça, je pense que c'était la volonté première de l'exposition.
Mais on sent que tu as été très ému aussi, il y a une émotion sur chacun des dessins qui t'a poussé à sublimer les moments vécus, que ce soit à l'île Maurice ou avant, dans les jardins, enfin, il y a un arbre qui est tout seul au milieu, au centre du dessin, qui est dans des tons roses, magnifiques et jaunes, qui est l'arbre dans le jardin de tes grands-parents.
Oui, ouais, je suis retourné chez mes grands-parents.
C'est très personnel aussi. Ouais.
Ouais. Il y a deux dessins en fait, qui sont inspirés de ce jardin incroyable qui se situe près de Saumur, dans la maison de mes grands-parents. Et c'est vrai que j'y suis retourné cet été. Et quand j'y suis retourné cet été, j'ai vécu un espèce de... c'était vraiment comme une épiphanie, quoi. Enfin, tous mes souvenirs d'enfance, d'été, beaucoup se sont passés là-bas. Et je me suis rendu compte à quel point j'aimais cet endroit, mais à quel point il faisait partie de moi, en fait. C'est vraiment un truc... c'est viscéral. Du coup, les arbres... le moindre bosquet de terre, le moindre buisson, on a l'impression de le connaître parce qu'on l'a déjà arpenté plein de fois. C'est des chemins en fait qu'on a déjà traversés, et quand on les retrouve des années plus tard, parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais pas venu, on a l'impression qu'en fait tout est pareil qu'avant. En fait, c'est vraiment fantastique. Et du coup, la présence de mes grands-parents, forcément. Elle existe grâce à ça aussi. Alors émotivement c'est très fort parce qu'en fait on est submergé par ça. Oui, ils sont plus là depuis un moment. Mais du coup là j'avais vraiment l'impression que leur présence était là. Au début je voulais même que l'expo porte uniquement sur ce jardin en particulier. Mais au final, j'ai un peu débordé sur plein d'autres choses.
Oui, et puis ça donne quelque chose. C'est hyper intéressant d'avoir des endroits familiers que tu as dessinés qui t'appartiennent, et puis d'autres complètement fantasmés, et que du coup, tu as transcendé le sujet presque en nous emmenant très loin.
C'était la volonté, mais parce qu'en fait, ça enflamme l'imaginaire.
Bah, hein. Oui.
C'est...
Tu t'es laissé emporter, Pierre-Emmanuel.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais on voit la palette et tout, parce qu'il y a une prédominance de vert. Déjà, ça, c'est balèze, hein, parce que le vert, on sait à quel point c'est difficile l'exprimer en dessin.
C'est pas une couleur facile.
Non.
En fait, ça faisait partie un peu du défi. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais tendance à remplacer le vert par du bleu, parce que en termes d'harmonie, pour moi, c'était plus simple. Mais là, j'avais fait quelques premières expériences, donc il y a 4 ou 5 anciens dessins qui font partie de l'expo et qui font volontairement partie de l'expo parce que ça a été l'impulsion à tout le travail qui a suivi. Donc il s'agit de préludes, mais il y a aussi les deux dessins qui avaient été faits au but de Chaumont et celui de la rivière qui s'appelle Amazon. C'était vraiment l'introduction du vert dans mes dessins, en trouvant des harmonies qui fonctionnent bien avec le jaune ou avec le noir. J'avais trouvé un moyen de bien faire fonctionner ça, et l'utilisation d'une couleur fluo qui va venir donner de la lumière, donner des éclats de lumière. Et du coup, c'est vrai qu'en testant ça, en expérimentant ça, je me suis senti plus à l'aise avec ces nouvelles couleurs. Et il y avait vraiment cette notion-là que je voulais exploiter pour cette nouvelle exposition. C'était me confronter à des couleurs que je n'utilise pas d'habitude. Donc, en gros, tous les crayons qui sont jamais utilisés, qui restent dans les boîtes...
Qui sont tout neufs. Tu les as pris pour l'expo.
Pour le coup, ouais, je me suis dit, celui-là, en fait, à un moment, j'ai vraiment, volontairement, je me suis dit, par exemple, pour le dessin qui s'appelle « Chemin », je me suis dit, mais je vais prendre du marron, du brun, cette couleur que j'utilise, mais jamais, parce que franchement, je ne sais pas m'en servir, quoi. Ça fait peur, en fait, hein, que parfois, c'est un peu... Et du coup, trouver de nouvelles voies pour faire des dessins et s'exprimer avec ces couleurs, c'est un peu réinventer sa pratique. C'est hyper...
Oui, se mettre des contraintes à la base du travail, ça permet d'aller sur des pistes qu'on n'avait pas forcément explorées.
Voilà, il y a
quoi.
Une notion de danger qui est super excitante, en fait.
Oui, parce que là, il y a quand même encore du fluo. C'est quand même ta signature, le fluo. Ouais. Mais on est loin de...
Je voulais pas en mettre au début, mais j'ai pas...
On est... Bah, oui, il y a, je pense, un des dessins que tu préfères, tu veux nous le dire, c'est lequel, mais il y a du fluo dedans, et ça donne... c'est la lumière, en fait.
Tu penses à Canopée ?
Oui.
Ouais. Canopée, c'est celui qui représente une jeune fille sur une branche d'arbre. Et oui, il y a beaucoup de fluo qui viennent marquer l'arrière-plan et qui contrastent de manière très forte avec le noir. Pour moi, ce dessin,
c'est ton préféré dans l'expo.
C'est l'un de mes
celui
préférés,
qui signifie plus de choses.
Je suis hyper content de ce dessin parce qu'en
fantastique,
fait,
ouais.
Pour moi, j'ai trouvé le juste équilibre dans ce dessin. J'en dis pas trop. Il y a une notion qui est vraiment de l'ordre de l'imaginaire, même s'il s'inspire vraiment de ce que j'ai pu voir à l'île Maurice, mais en termes de végétation. Et je l'ai fait là-bas, donc j'étais un peu habité par ça. Mais il y avait cette envie de faire un dessin qui soit empreint d'aventure, d'esprit d'aventure. Je pensais beaucoup à Peter Pan, par exemple, ou à Vendredi et la vie sauvage. Ou à Robinson. C'est toutes ces histoires un peu mythiques qui font partie de notre imaginaire, qui sont des classiques, qui sont là depuis longtemps. Et j'avais envie de représenter cette jeune fille qui est censée être ma fille, mais plus tard, que j'imagine dans un arbre, arpentant la nature, vivant dans la canopée des arbres, capable de vivre loin de tout. Ça, c'est un fantasme que je trouve assez chouette.
Ça t'habite beaucoup, cette idée de te réimmerger de t'immerger dans la nature. Tu disais que t'es citadin, Émilie et toi. Alors, Émilie Sandoval, qui est ta partenaire à la ville, on dit, et dans le travail aussi, vous travaillez beaucoup ensemble.
Ouais, ouais,
vous
c'est
êtes parisien,
on est parisien
de souche,
ouais.
Et très citadin. Et là, il y a peut-être cette envie qui commence à venir de vous extraire de la ville. Et comme disait Jean Mallard, pourquoi s'entête-t-on à vivre en ville quand la nature est si belle et si accueillante?
Après, on adore la ville, mais on a beaucoup de discussions à ce sujet avec Émilie.
Ça nous travaille.
Parle beaucoup. Parce que effectivement, on est parisien et on a un attachement très fort à cette ville parce qu'on adore Paris. On adore Paris, on a du mal à s'en passer et on est content de revenir à Paris quand on vient à Paris après être parti en vacances ou en voyage. Ça fait partie de nous vraiment et de notre histoire, donc on a du mal à s'en passer, c'est sûr, mais il y a toujours l'attirance d'un monde plus simple, plus sauvage, plus naturel, en fait, quelque chose qui est libéré de contraintes qu'on fantasme complètement parce qu'on est citadin, d'ailleurs, parce qu'on se rend pas compte de ce que c'est vraiment
Oui, on n'est pas tout à fait prêt encore à vivre dans la jungle.
Non,
avec un...
même à la. Enfin, moi, j'ai jamais.
On
vécu,
s'en sortirait pas longtemps. Je... Enfin, on
j'ai pas vécu
on
plus de 3 mois à la campagne, tu vois. Donc, en fait, j'en sais rien. Mmh. C'est tout ça. Ce sont des fantasmes. Mais ça nourrit énormément, en tout cas, mon imaginaire.
Puis ça questionne aussi sur ce lien perdu avec la nature. Enfin, le lien que l'humain a perdu avec l'humain, nous. Hein.
Oui.
Il y en a
oui.
qui l'ont conservé et heureusement qu'ils ont cette mémoire des choses essentielles qui sont liées à la nature. Et nous, on vit un peu en marge de ça et ça nous manque, je pense. Ouais. Peut-être que c'est ça ton.
Et je pense qu'il y a ça. Et puis je pense qu'il y a beaucoup la notion de d'enfance en fait et de tout ce qui concerne.
C'est la ville, hein.
C'est la ville, voilà.
Vas-y, tu peux reprendre.
C'est Paris, c'est les scooters, c'est le trafic. Bon, déjà, on les entend un peu moins qu'avant. Mais... non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi vraiment ce truc que moi, j'ai en moi et que j'essaye de pas perdre. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais du dessin pour l'édition jeunesse. C'est cette envie d'aventure. C'est vraiment ce désir d'exploration qu'on a quand on est enfant, quand on est dans un grand parc ou un grand jardin ou dans une forêt. Et ce truc qui, moi, m'habite encore parce qu'en fait, on a cette conscience qu'on est en face de quelque chose de plus grand que nous. Et vraiment ce sentiment qui est sublimé dans des romans comme Peter Pan...
Bah, t'as fait un dessin magnifique. Bon, il est pas là parce qu'il est au scan.
Ah oui, c'est vrai.
À Outrade, à Vincennes. Mais t'as fait cette fresque immense au crayon. Alors, c'est vraiment un exploit déjà. Enfin, j'imagine le travail que ça représente, qui s'appelle l'Inde.
Ouais, l'Inde.
Et qui représente, ben, tu peux nous le décrire, puisque
qui représente en fait une terre par laquelle on arrive en bateau. Donc, on n'est pas loin de la rive. Et on voit dans une forêt ultra luxuriante, vraiment un jungle, trois silhouettes qui avancent et qui s'enfoncent dans la forêt. Donc c'est vraiment c'est comme un portail en fait. C'est la porte d'entrée à un monde inconnu d'aventure, comme un trésor.
Il est immense, ce tableau. Il fait un mètre quasiment de large en panorama. Enfin,
je suis nul en
paysage.
Format et en
je pense
chiffre,
qu'il fait pas loin.
Mais il est grand. C'est un grand aigle. C'est un format grand aigle.
On rentre dedans, en fait. Tu nous as fait quelque chose qui nous. C'est une porte, comme tu dis. On rentre dans le dessin. Vu ses dimensions, on n'a aucun mal à pénétrer la forêt avec les trois petites silhouettes à s'immiscer derrière.
Ouais. C'est vraiment l'entrée dans quelque chose d'inconnu. Dans l'exploration, alors on ne sait pas si c'est l'Amazone, on ne sait pas si...
Un dessin comme ça, tu le réalises en combien de temps parce que...
Alors, c'est assez marrant que tu me poses cette question, parce que par rapport à l'expo précédente où j'avais fait un dessin dans un format similaire qui s'appelle Célébration, mais qui lui avait... j'avais mis beaucoup, beaucoup de temps à le faire, vraiment... En fait, l'Inde, j'ai passé, je pense, 3 jours. Ça a été très rapide.
Oui,
ça a été très rapide.
Tu t'es jeté sur le papier là, avec tes crayons.
Mais je savais ce que je voulais faire. Mmh. Je le mûrissais depuis très longtemps. Je savais comment j'allais le faire. Et ça s'est passé très rapidement, en fait.
Mais je pense, enfin, pour l'ensemble, on sent, enfin, il y a quelque chose de très jeté, de très spontané, de presque sauvage aussi sur tes dessins.
Ouais.
On a l'impression même, tu disais, il n'y a pas forcément eu de croquis préparatoire pour certains.
Oui.
Tu dessinais vraiment dans une impulsion, une émotion.
Ouais.
Ça se
en
ressent.
En fait, j'ai plus travaillé avec la. Quand j'avais un doute sur des compositions, je faisais des choses très rapides sur la tablette graphique, qui me permettait de poser juste des intentions, mais très rapides. Mais pas d'esquisses sur le papier, en fait. Une fois que je savais ce que j'allais faire, je me jetais un peu à corps perdu dedans. Je pense que c'est vraiment lié au geste et c'est lié au travail de la matière et de la couleur qui était vraiment au cœur même du projet. C'est-à-dire que, avant toute chose, je voulais représenter des masses végétales. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Et pour représenter des masses végétales, en fait, il faut direct commencer comme en peinture à poser des touches, on fait une première passe et puis après on revient dessus, on essaye
de
mélanger.
La couleur directement, quoi.
Voilà, les choses s'enchevêtrent.
La couleur et tu la jettes sur.
Voilà, c'est ça. Et on voit ce qui se passe et on réagit par rapport à ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux pas réellement contrôler. C'est quelque chose, c'est une porte ouverte aux accidents permanents, en fait. Du coup, comme il y a des accidents en permanence, tu passes ton temps à composer avec ça et à négocier, en gros, ce que tu vas faire. Et c'est pas évident, hein, parce qu'il y a des fois où en fait, ça va dans une direction où tu t'y attendais pas trop, mais tu t'arranges avec ça. Tu t'arranges, c'est un arrangement, en fait. Chaque dessin est un arrangement. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire, c'est là-dessus que je travaille.
Oui, il y a quelque chose de, comme une sorte de d'écriture presque automatique, enfin comme on peut l'avoir en écriture, mais où tu contrôles pas tout et tu te laisses aussi emporter vers quelque chose que tu t'es pas projeté sur l'issue, quoi.
C'est exactement. Donc en fait, ça implique un engagement en revanche de ta part, c'est-à-dire que tu mets une énergie. Si l'énergie ou si le désir il est pas là quand tu fais le dessin, ça marche pas. Hein. Il faut être un peu, c'est un truc de concentration extrême, quoi. Mais si jamais tu te livres, alors je sais pas si c'est très clair quand j'en parle, hein, mais pour moi c'est vraiment ça. On se livre pleinement dans le dessin et dans cette pratique. Bah, en fait, du coup, là, ça va très vite. Et ça a été le cas pour Land, en fait. Et j'étais très surpris, d'ailleurs, que ça aille aussi vite que ça. Parce que pour moi, je me disais, c'est un dessin, je sais que je vais y passer du temps, je sais que ça va être compliqué, ça va pas forcément donner ce que j'ai en tête et tout. Et en fait, curieusement, ça a été l'un des plus simples à faire. Et j'ai pas vraiment d'explication pour ça.
Mais c'est super parce que souvent on se met les artistes mettent parfois une pression sur le rendu final en se disant est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est achevé, est-ce que je continue. Mais en ce qui te concerne, ça, la question se pose pas parce qu'en fait c'est quelque chose, c'est une sorte d'énergie que tu jettes sur le papier et qui presque ensuite t'échappe et finalement le dessin est presque par lui-même autant que par toi.
Oui.
Enfin, c'est fou. Enfin, c'est presque chamanique.
Ouais. C'est oui. Bah,
et engageant pour les autres artistes de leur dire laissez-vous aller en fait dans la couleur aussi parce que c'est un torrent de couleurs tes dessins.
Oui. Bah la couleur. Alors,
chose qui est folle parce que tu l'as apprise. Tu l'as apprise aux arts déco la couleur par une prof. Tu expliquais ça.
Ah oui j'expliquais ça. Bah en fait la couleur moi j'étais vraiment pas. J'étais pas du tout à l'aise avec la couleur au début. Au début, quand je dis au début, c'est jusqu'à ce que j'arrive en prépa, c'était une vraie galère, quoi. Je faisais pas de dessin en couleur, je détestais ça.
Ça paraît complètement incroyable que tu dises ça parce qu'on a l'impression que c'est inné, enfin que t'es né.
Ouais, mais pourtant ça me plaisait pas du tout. Et d'ailleurs, mes parents me disaient, mais tu fais pas de couleur.
Bah oui, puisqu'ils étaient là à ta première expo en 2020 et ils disaient, mais Pierre-Emmanuel, tu fais de la couleur. Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont découvert ça, mais parce que, en fait, c'est vrai que, en prépa, en plus de ça, on a essayé de nous apprendre la couleur par le biais de la théorie. Et pour moi, en fait, je respecte tout à fait tout ce qu'on a pu écrire sur la théorie de la couleur et tout ce qu'on essaye d'enseigner sur la théorie de la couleur. Je suis très admiratif qu'il y ait des gens qui arrivent à faire ça. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que qui me dépasse complètement. C'est-à-dire qu'en fait, la théorie de la couleur... je pense que je la comprendrai jamais.
Tu pourrais pas nous l'expliquer là rapidement en
3 mots. Non. Je pense qu'en plus il y a plein de manières différentes de voir. C'est presque.
Et puis il faut s'en échapper surtout.
C'est presque de la physique en fait. Mmh. Ça devient presque scientifique. Mmh. Et moi c'est pas du tout mon approche. Moi je suis dans une approche qui est complètement spontanée,
intuitive
et intuitive. Et ça c'est vrai qu'aux Arts Déco quand je suis arrivé aux Arts Déco j'ai eu une professeure qui s'appelait France Mitrofanov et qui était peintre et qui m'a complètement en fait elle m'a dit tout ce que tu as appris en prépa tu l'oublies. je ne veux plus que tu penses à ce que tu as appris en prépa. Alors, on est très déçus quand on arrive aux Arts Déco et qu'on nous dit ça, parce qu'en fait, on a bossé comme des malades pendant un an pour faire des dessins d'analyse. On est trop fiers de la qualité de notre dessin, hyper photographique et tout. Et on a vachement bossé là-dessus. Donc, moi, tout mon dossier d'entrée aux Arts Déco était basé sur du dessin pur, comme ça, d'analyse, de perspective, ultra réaliste, photographique, en fait. Et quand je suis arrivé aux Arts Déco, on m'a dit d'oublier ça, en fait. On m'a dit, ce que tu faisais avant, c'est très bien que tu l'aies fait en prépa. Maintenant, on va essayer de faire parler autre chose. Et elle nous a fait acheter des bâtons d'huile, des énormes bâtons d'huile qui sont en gros des gros pastels gras de couleur pure, très vives. Et elle nous a fait faire des très grands formats. Et elle a dit, vous lâchez, je veux de l'émotion.
Et t'as fait péter les verrous.
Et je veux pas de beaux dessins. Bah, j'ai appris, parce qu'il faut désapprendre, en fait, quelque part. C'est long, c'est un processus qui est long, mais clairement elle a déverrouillé quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, fort de toute la théorie du dessin que j'avais appris avant, je me sentais à l'aise en dessin, mais du coup je pouvais me laisser aller sur d'autres terrains, et c'était hyper complémentaire au final. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait c'est possible, je peux faire de la couleur, je peux m'éclater, je peux faire des choses que je pensais m'être interdites, en fait, parce que il y a ce truc de la couleur un peu comme une grande chapelle. Quand on arrive en cours de couleur, c'est un peu genre gloops, tu vois, tu te dis bon, il faut pas que je fasse d'impair. Moi, ça m'impressionnait vachement, en fait. Et puis il y avait des gens qui étaient hyper doués, des gens qui ont ça de manière innée, font des trucs en couleur incroyables. Et du coup,
parce que
oui, mais parce qu'en fait,
en couleur,
je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser. En fait, c'est un abandon plus qu'autre chose. En fait, c'est un abandon et c'est une pratique régulière. C'est-à-dire que ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, c'est à force de. C'est un peu comme le sport ou je sais pas, n'importe quel hobby. À force d'en faire, on trouve des choses qui, des automatismes, des harmonies, on construit son univers, on construit une pratique qui nous est propre, et puis au final, on se retrouve comme si on était chez nous, quoi. Et on pense plus à la difficulté, on pense pas à ce qui est interdit, on pense uniquement, alors là, par exemple, pour cette expo, c'était qu'est-ce que je peux découvrir de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau avec ces crayons, quoi? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Et ça, c'est hyper excitant.
Oui, c'est un terrain de jeu inépuisable, la couleur aussi.
Oui.
Et d'expérimentation.
Pour avoir, alors, le truc qui a vraiment déclenché aussi et qui a accompagné l'expo, c'est ce travail de peinture que j'ai fait avec Maria Machoukeli, donc qui est réalisatrice et qui a fait son film qui s'appelle Ama Gloria.
Ah oui, ça, il faut que tu nous en parles, parce que ça, enfin, ça fait partie aussi d'une des facettes de ton travail. Tu fais plein de choses, t'es hyper polyvalent, tu dessines au crayon, tu fais aussi des dessins à la tablette numérique, mais aussi tu fais beaucoup d'animation.
Oui.
Et là, il y a un super projet
que tu
portes en partie, parce que tu participes.
Oui, j'y ai participé. Bah, j'ai été invité à y participer, donc par Marie qui a écrit ce film.
Donc Ama Gloria.
Ama Gloria, oui.
On peut dire qu'il sort le.
Alors, il sort le 30 août.
30 août.
Au cinéma. Il est présenté à Cannes la semaine prochaine.
Oh là là, on va avoir des frissons là.
Voilà, il fait l'ouverture de la semaine de la critique. Et dans ce film, il y a des séquences d'animation que j'ai réalisées. Et pendant 2 ans avec Marie, on a travaillé ensemble pour trouver une forme picturale qui lui convienne et qui était très... T'es complètement nourri par la peinture, que ce soit impressionniste ou Félix Vallotton. On a regardé énormément de choses, même des choses contemporaines, Claire Tabouret, Peter Doig. Alors moi, j'ai découvert les travaux de peintres contemporains dont j'ignorais l'existence et j'ai été complètement marqué par ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire que j'ai un nouveau monde, c'est ouvert, quoi. Et ça a complètement nourri ma pratique, c'est-à-dire que ça a vraiment influencé ce que j'étais en train de faire. Ça a remis tout en question, parce qu'en fait, j'ai vu des images qui étaient porteuses de tellement d'émotions, et la matière de la peinture est tellement puissante pour créer des nouvelles harmonies
c'est
de couleurs.
C'est la première fois que tu faisais ça, de la peinture?
Non, j'en avais fait justement beaucoup aux Arts Déco.
Oui.
Et avec France Mitrovanov, justement. C'était aussi ma prof de peinture. On faisait de la peinture à l'huile avec elle.
D'accord.
Et c'était...
Mais t'avais pas repris depuis tout ce temps
Non. Non, non, j'avais... le problème de la peinture, c'est l'espace et le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un peu de matériel, il faut un atelier, il faut pouvoir salir. C'est génial, hein. Mais il faut... Disons que ça fait partie d'un processus. Et me remettre à la peinture, ça m'a complètement... En fait, c'est le plaisir ultime.
Parce ça a influencé du coup ton expo ici aussi dans la technique du crayon.
Complètement.
Mais t'as pas eu envie de faire de la peinture pour cette expo même
Alors, il y avait. Si. Alors normalement, il devrait peut-être y avoir deux toiles que j'ai fait pour le film qui devrait venir en complément de l'expo à partir de la semaine prochaine. Donc ça sera dans un deuxième temps. Forcément, ça m'a remis le pied à l'étrier et ça m'a donné des désirs de peinture. Donc, je pense que peut-être que...
Ça fait partie des projets, peut-être.
Peut-être que la prochaine expo, ça sera plus de la peinture. J'en sais rien pour l'instant.
Mais c'est plus long, effectivement. T'as tu le crayon, en fait, chaque artiste choisit un peu son médium, comme ça, pour diverses raisons. Toi, il y a le côté pratique du crayon.
Oui.
L'immédiateté aussi.
Complètement. Mm. En fait, ça vient de ça, l'utilisation du crayon de couleur. Je m'y suis mis parce que, quand on est parti à New York pour un voyage avec Emily, on voulait dessiner et au dernier moment, moi j'ai fait mon sac et je me suis dit qu'est-ce que j'emporte ? Ah, des crayons de couleur, c'est très pratique. On peut les sortir rapidement.
C'est venu comme ça.
Ouais, c'est venu comme ça. Il y a pas de temps
C'était
de séchage.
Quand, ça
C'était en 2016, je pense, ou 2016. Et c'était génial. C'est-à-dire que j'avais une impression de liberté, il y avait quelque chose d'hyper immédiat, un mélange entre le dessin, la couleur, c'est parfait en fait, ça permet quelque chose de très énergique aussi, d'avoir un dessin très expressif.
Mais on sent l'énergie dans tes dessins, voilà, t'appuies beau avec beaucoup de
ferveur.
Oui, on sent la ferveur dans l'usage du crayon. Tu dois avoir ta botte secrète d'ailleurs en matière de crayons. Tu as dû les expérimenter pas mal.
On me pose tout le temps la question sur Instagram des marques,
ouais, c'est sûr,
des trucs que j'utilise.
Et oui, mais c'est secret ça.
Non, c'est pas secret parce que je pense que de toute manière il y a pas de.
C'est la façon de l'utiliser.
En fait, en plus il y a pas de recette parce que moi j'utilise beaucoup de marques mélangées. Au début je faisais que du Caran d'Ache. Là, maintenant, j'utilise en grande partie que des polychromos de chez Faber-Castell, que je trouve, c'est le parfait équilibre entre le sec et le gras. Donc ça, c'est génial. Et puis, les pigments sont super. C'est hyper beau. Et puis là, j'ai commencé à utiliser des crayons Posca que vraiment je trouve géniaux.
Ah oui?
Ouais. Avec des très très belles couleurs. Ils sont un peu plus gras.
Voilà, il y a des fluos. Enfin,
et alors, les fluos, il y en a plein. En fait, il y a certains qui ont été faits avec une marque scandinave, mais alors je me souviens plus du nom. Et puis, il y a des crayons japonais que j'ai trouvés récemment qui sont fantastiques. Vraiment, c'est une marque que j'ai découvert.
Ah, oui.
Je me souviens plus du nom non plus, mais bon, je pense que si on tape... dans les internets, crayons de couleur fluo japonais, on va trouver. mais en gros, en fait, je pense, j'ai pas du tout de chapelle ou d'école là-dessus. En fait, c'est vraiment une question de pigments, de couleurs et de ce qu'on aime. Faut surtout pas commencer à se mettre des barrières et à se dire je ne fais que avec ça, parce qu'en fait, on se retrouve cloisonné, on se retrouve dans une boîte, et déjà on est contraint par des gammes imposées par les crayons. Donc c'est un peu, ça serait dommage de se priver de faire des mélanges.
Mais c'est vrai que il y a ce dessin-là qui réunit en fait deux amoureux sur un banc à l'ombre des arbres.
Ah oui. Ouais.
On dirait une peinture en fait.
Oui, alors c'est vraiment marrant parce qu'en plus c'est l'un des derniers que j'ai fait, et je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Effectivement,
caméléon,
ouais, caméléon, parce qu'ils se fondent dans le décor,
oui.
Ils sont seuls, seul au monde.
Il est magnifique.
On les voit pas, quoi.
On peut pas soupçonner qu'il soit fait au crayon du tout, celui-là.
Mais ça, c'est vrai que enfin, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire. Les ombres sont colorées.
Donc, on sent la fraîcheur de l'arbre.
Et la lumière écrasante de l'été dans un parc comme le Luxembourg ou les Tuileries.
Oui.
Et justement,
Là, t'as une aisance. Je pense que t'as poussé le curseur à fond sur ce qu'on peut faire avec un crayon en matière d'usage et d'expérimentation.
Il y a plein de gens qui sont très très doués au crayon.
Sans doute, mais n'empêche que concerne,
J'aime bien pousser les limites et ce que j'aime surtout, c'est que comme vous m'en laissez l'occasion à la Slow Gallery, à chaque expo, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles choses. Donc, je me dis qu'en fait, c'est infini.
Cette expo particulièrement, je trouve qu'il y a une palette d'usage du crayon très, très diverse. Il y a quasiment tout. Il y a le dernier caméléon qui est complètement incroyable. Et puis d'autres, on voit bien le coup de crayon que tu as laissé le crayon brut apparaître. Donc, il y a toutes les expressions du crayon possibles.
Après, il y a ce fil rouge qui est ces espèces de taches que j'ai qui habitent chacun des dessins, qui sont des reprises que je fais à la gomme notamment à la gomme électrique. Je fais naître de la lumière une fois qu'on a mis beaucoup de couches de crayon et que vraiment on a plusieurs couches les unes sur les autres. Si on revient à la gomme électrique, on peut faire naître des éclats de lumière. Ça enlève une couche de crayon comme si c'était du plastique presque, en fait. C'est assez étonnant en termes de matière. Et en fait, en dessous, il y a de la couleur encore. Parce que de toute manière, le papier s'imprègne des pigments. Et du coup, on fait naître de la couleur. Et après, je reviens... En fait, je redessine. Donc, par exemple, je viens faire naître des taches de fluo qui sont en dessous et qui vont venir habiter l'ensemble des œuvres. Ça, c'est un peu le fil rouge de l'expo, parce que c'est vrai que j'ai utilisé ça dans beaucoup des dessins. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est un peu un tic, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ça permet de donner un côté très aqueux, en fait, on a l'impression que c'est humide parce que c'est comme des gouttes d'eau, en fait. Et puis ça pétille, ça donne de l'éclat. Et dans la nature, tout pétille, il y a de l'éclat partout, en fait. Tout est vivant, donc il y a des petits éclats de lumière qu'on perçoit même pas parce qu'on est tellement habitué à les voir qu'on se dit pas c'est explosif. Mais en fait, ça vient vraiment de là, l'éclat de la lumière sur tous ces petits détails. C'est ça qui va faire qu'un paysage, il est jamais plat, il est toujours en profondeur. Et du coup, ce travail-là me permet de montrer ça, en fait.
Et tu l'as fait notamment sur Galaxy, celui-là, l'arbre qui est sur ce fond-là, comme une aurore boréale derrière.
Alors c'est marrant parce que c'est un dessin qui fait presque science-fiction, mais qui s'appelle Galaxy, parce que ça me fait marrer. Mais en fait, c'est des arbres qui sont chez mes grands-parents.
Alors, il y a une ambiance complètement surréaliste comparée à celle qui est très posée et calme.
Oui. Mais parce que c'était vraiment un paysage nocturne. J'avais pris des photos. Il y avait une très belle lune ce soir-là. Et en fait... C'est vraiment perdu au milieu de nulle part chez mes grands-parents. Du coup, il n'y a pas de lumière artificielle. Et il y avait un éclat de lune qui était tellement fort qu'on voyait comme en plein jour, mais vraiment au clair de lune. C'était une nuit américaine, quoi. Et l'éclat de la lumière était incroyable, mais vraiment c'était hyper beau. C'est magique, en fait, quand le parc est illuminé de cette manière-là, juste avec la lune. Et j'avais vraiment envie de retranscrire cette impression. Alors, c'est pas du tout réaliste ce que j'ai fait. C'est pas du tout réaliste parce que forcément j'utilise du fluo et tout. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc qui est de l'ordre de l'espace, c'est-à-dire qu'à un moment on a l'impression d'être sur une autre planète.
Mais il y a aucun de tes dessins qui réalise finalement au vu des couleurs que tu utilises, et c'est ça qui consiste à le sublimer aussi, à le rendre rêver Et c'est ça qui est si poétique dans ton expo.
Oui, il y en a quand même quelques-uns qui sont plus réalistes que d'autres, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Enfin, oui, si, enfin, il y a des jardins, ouais, il y a des...
Non, mais par exemple, les poissons, le dessin c'est qui s'appelle cartes, Rouge, ouais. Parce que ce qui s'inspirait aussi parce qu'il y avait des douves dans le parc de mes grands-parents.
Ça a l'air beau, hein.
Et j'avais vraiment envie de dessiner ces douves avec les nénuphars. Il y a plein de nénuphars. Le soir, il y a des grenouilles.
Ouais.
On entend qu'elles, c'est génial.
Il sert vraiment... des grenouilles.
Mais j'avais un souvenir de carpe aussi, et j'avais vraiment envie de cet éclat de rouge vif dans un univers très vert. C'était une image que j'avais envie de figer aussi dans le temps. Et pour le coup, ça donne. C'est tout de même l'un des dessins les plus réalistes de l'expo.
Oui. Ça nous ramène d'ailleurs au super texte qu'a écrit une écrivaine,
ouais,
qui s'appelle donc
Joanna Krawczyk.
Voilà, Joanna, ouais, Krawczyk, et qui a écrit un superbe texte d'introduction, enfin de note d'intention, et qui parle de ça en disant des contrées colorées qui ressemblent à Hawaï, à l'île Maurice, au Cap-Vert, aux Tuileries, au Luxembourg, au Butte-Chaumont, mais gare aux leurs, ces terres qui chantent sont intimes, tantôt bleues, vertes et roses, sombres et fluorescentes. C'est une partie du texte seulement, mais il est magnifique.
Ouais.
Et c'est un bel hommage à ton travail. C'est un poème en prose presque. En
oui,
fait.
Oui. Alors merci Johanna d'ailleurs d'avoir accepté de faire ça. En fait, ça venait un peu d'une démarche aussi de renverser un peu les choses, de pas faire. D'habitude, j'écris des textes moi-même
sur bien.
Les expos. Mais merci. Mais là, en fait, j'avais pas très envie de ça parce que je me disais que c'était chouette qu'il y ait un nouveau regard. En plus, Johanna, on travaille un peu ensemble. Elle travaille dans l'animation. Elle écrit des romans. Je lui envoie des textes sur mes projets. On échange. On a des projets ensemble qui, j'espère, un jour verront le jour. Et du coup, je me disais que c'était une bonne idée de lui demander d'écrire quelque chose sur l'expo, parce qu'en fait, du coup, ça serait complètement neuf. Ça serait pas imprégné de ce que moi j'y projette, mais ça serait plus la vision de quelqu'un
qui
extérieur,
ressent, oui, qui juste ressent les émotions,
et puis qui prend tous les dessins à un moment. L'expo était pas complète quand elle a écrit le texte, mais en tout cas, elle a vu les dessins et elle a écrit aussi ce qu'elle ressentait. Et je trouvais ça très chouette parce que déjà, j'aime beaucoup son travail d'écriture. Mais en plus de ça, je pense que quelque part, c'est plus proche du public que le texte vient.
Oui, et puis elle a tout saisi, je trouve, y compris le côté très intime de ton exposition. Quand elle dit où la beauté et l'enfance retrouvent leur place, c'est précisément nous déplace.
Oui.
Il y a à la fois de l'intime, des souvenirs d'enfance, ton histoire personnelle, ta famille, et puis aussi tout le côté rêvé, fantasmé de ces grands explorateurs, de ces terres inexplorées.
Ouais.
Il dit tout ce texte, il est très très beau, ça.
C'est vrai,
il est très cohérent.
Vrai que ça rassemble toutes ces choses. Après, je pense que c'est vachement lié à mon histoire, à moi, enfin, à ce que je vis en ce moment.
C'est personnel, bah oui.
Parce que forcément, on l'a dit, moi, je suis papa depuis 4 ans d'une petite fille qui s'appelle Paloma. Je vais être papa à nouveau en septembre.
Là.
Donc, c'est une nouvelle aventure. Et en fait...
La famille, c'est très important.
La famille, c'est hyper important. Enfin... Pour moi, c'est hyper important parce que c'est mon monde, c'est mon univers.
C'est ta matrice.
C'est ma matrice, c'est ma source d'inspiration, c'est ce qui conçoit vraiment ma stabilité dans ma vie.
Et puis tes grands-parents aussi ont beaucoup compté. Enfin, tes parents, évidemment, mais tes grands-parents, ouais. T'as écrit un livre en hommage à ta grand-mère aussi.
Oui, qui s'appelle Ce jour-là, ouais.
Qui est magnifique.
Qui est sorti cette année en novembre.
Qui va voyager d'ailleurs.
Oui.
Qui va être traduit, hein, tu disais.
Oui, il est traduit en Corée déjà il va être traduit en Italie aussi. Il va sortir en Italie. Oui, c'est des choses qui sont importantes, qui constituent une part très, enfin, en tout cas, ça m'inspire beaucoup pour mon travail personnel. Tous les gens qui me connaissent disent que sur tous mes dessins, même dans mes travaux de commande, je représente Émilie et Paloma, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, c'est mon quotidien, c'est ce que j'ai autour de moi. Mmh. Et je pense que, forcément, ça.
Ils sont tes muses.
Ouais, mmh. Et puis voilà, c'est ça, ça influe complètement mon travail, c'est-à-dire que ça infuse mon travail.
Mais on sent que c'est un équilibre et un bonheur en même temps.
Oui, enfin... oui, parce que c'est fascinant, c'est une aventure tous les jours.
On te sent heureux dans tes dessins.
Ouais, c'est cool, ça me fait, j'ai de la chance.
Et en
j'ai
plus,
de la chance et je, c'est important de le dire, je pense,
C'est précieux.
C'est précieux. Et je suis conscient que j'ai de la chance de faire ce métier, de pouvoir m'exprimer comme ça, de pouvoir exposer des dessins ici, d'avoir la parole quelque part. C'est une chance. C'est pas donné à tout le monde. Et j'essaye de me le dire tout le temps, ça. C'est-à-dire que, en fait, rien n'est éternel, rien n'est pérenne. Et du coup, il faut tout faire comme si c'était la dernière fois, quoi. Il faut tout faire comme si il faut vivre pleinement les choses.
C'est parce que c'est très éphémère, bien sûr.
C'est très éphémère et il ne faut pas de regrets, quoi.
On n'a pas raconté que tu avais fait... Bon, c'est vrai qu'on est un peu tenu par le temps, mais de tes projets que tu avais réalisés pour Arte ou avec Rhône...
Oui, alors en fait, c'est vrai que moi, dans ma carrière est scindée en plusieurs parties parce que je fais des films d'animation. Et je fais de l'édition, du dessin pour la presse. Ça prend beaucoup de formes différentes. J'enseignais jusqu'à l'année dernière, donc c'était encore une autre partie. L'édition jeunesse représente une grosse partie de mon travail aussi.
Donc tu publies régulièrement des livres.
Ouais, j'en ai toujours en cours. Là, actuellement, il y en a 3 ou 4 qui sont dans les tuyaux. Donc ça infuse aussi beaucoup. Mon travail, c'est le livre jeunesse pour moi, c'est à la fois un désir ardent et c'est un accomplissement parce qu'en fait, je crois à la littérature jeunesse, mais j'y crois, c'est presque politique, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le livre est un vecteur d'éducation hyper fort et d'imaginaire, et je pense qu'on peut sauver le monde grâce à la littérature, quoi. Mais vraiment, c'est quelque chose, j'en suis convaincu. Et du coup, je suis hyper heureux de travailler dans ce milieu-là parce que c'est fantastique et je le vis tous les jours avec ma fille quand on lit 3 histoires le soir. Je vois à quel point ça la galvanise. C'est
ça très
beau.
Ça la construit aussi sans doute dans son imaginaire, dans la vie, la vision qu'elle a du monde. Ouais, c'est
l'apprentissage
important.
Du langage, des situations, de notre monde passe par là. Et vraiment, pour moi, c'est...
L'édition jeunesse, tu continueras toujours.
Ouais. J'aimerais bien faire de la BD bientôt, plus ado-adulte, en tout cas, l'édition jeunesse, c'est quelque chose de très important. L'anime, ça va aussi dans ce sens-là. Alors, l'animation, c'est plus long. C'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps. Là, je suis en train de finir une série qu'on a tournée à la Philharmonie, avec des séquences d'animation dedans, donc ça sera un projet hybride. On réalise ça chez Mew, au studio Mew, et c'est produit par Caméra Lucida. C'est un très gros projet, on a commencé il y a 8 ans, on aura fini à la fin de l'année.
Faut
là.
Du souffle.
Voilà, ouais, donc c'est... Mais l'équipe est super, tout le monde bosse avec passion, c'est génial de voir les choses naître maintenant. Après, il faut de la patience. Et c'est vrai que le dessin apporte un équilibre d'immédiateté qui est très appréciable dans le travail.
Et vu le nombre d'actions que tu mènes au quotidien sur tous ces fronts-là, d'animation, de projets dessinés comme tu fais là régulièrement, t'es un des artistes les plus prolifiques de la galerie, tu dessines sans cesse.
Ouais, j'essaye de dessiner le plus possible, effectivement. Et je suis très content que ça puisse prendre plusieurs formes. J'adore faire des dessins pour la presse parce qu'il y a un truc, ça devient quasiment un travail de mercenaire où il faut faire le truc très rapidement, trouver une idée et sortir quelque chose de chouette, bosser avec des nouvelles personnes à chaque fois. Ça, c'est passionnant sur des sujets qu'on maîtrise pas forcément, donc il faut se plonger un peu là-dedans. C'est génial. Et c'est des nouveaux univers. En fait, c'est un peu comme un reset à chaque fois, c'est-à-dire qu'on réinvente tout, quoi. Il faut tout faire à nouveau. Et ça c'est très excitant.
Mais ils sont toujours très beaux. Même tes dessins de presse faits sur commande sont toujours d'une poésie et ils atterrissent parfois à la galerie d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ouais. Le dernier c'était la couverture de Libé, Désobéir. Ouais. C'est un dessin dont je suis hyper fier parce que ça a été une super collaboration avec le DA qui s'appelle Nicolas Valotto et c'était un honneur de pouvoir faire ça pour le Salon de Montreuil. Vraiment, c'était un rêve, quoi. Parce que c'est une tradition, ils le font chaque année. Quand ils ont fait appel à moi, j'avais un peu du mal à y croire. Donc je savais qu'il fallait que ce soit un beau dessin. Et j'ai été content du résultat parce que c'était pas forcément évident comme commande, mais c'était un super boulot. Ouais. J'étais très content de ça.
Dans tes inspirations, c'est ce qui te guide, ce qui va te nourrir pour tes dessins. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il y en a une en particulier là, qui t'habite davantage, la musique ou la lecture ou les voyages. Les trois,
la musique, c'est très important pour moi. Le cinéma, c'est très important, l'univers cinématographique, les films, ça nourrit vraiment beaucoup mon travail. Plus que, en fait, je suis pas un fervent lecteur de bande dessinée. Je me nourris un petit peu moins de ça, mais par contre, je vois beaucoup de films. Donc ça, c'est sûr que c'est ça fait partie vraiment de ce qui me nourrit, de ce qui m'inspire. Les voyages et la musique aussi.
Et la poésie du quotidien aussi, hein, en fait, t'es très ouvert à ça. Ouais. Enfin, quand on voit tes dessins que tu fais sur Belleville, ton quartier, toute cette série-là... Tu poses un œil sur chaque chose.
Oui, et c'est vrai que il y a ce lien qu'il y a entre le dessin et justement le cinéma, l'animation qui m'intéresse beaucoup. Et alors là, il y a pas pour l'instant, mais j'ai fait des expérimentations à partir de ces dessins qui sont dans l'expo pour les animer justement. Et donc j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrai montrer un...
Ils vont être présentés durant l'exposition.
C'est ça. Mmh. Mais ça va plutôt arriver la semaine prochaine, ça sera projeté. Et il y a certains des dessins pour lesquels j'ai fait des animations.
On en a vu quelques-uns, oui. Ça fait voir l'œuvre différemment aussi.
C'est
extraordinaire. Ouais.
Ouais, il y a des réadaptations de format, ça permet de voir les dessins un peu différemment.
Tu rajoutes une narration, oui.
Il y a une narration tout d'un coup, ça raconte autre chose, c'est plus un instant figé, c'est un instant vivant qui dure un temps donné et qui permet de faire vivre une autre émotion. Et ça, c'est un lien que vraiment j'adore travailler et le challenge, c'est vrai, pour cette expo aussi, c'était de réussir à animer ces dessins qui jusque-là restaient vraiment du crayon de couleur pur et ça restait un peu en dehors de mon travail d'animation pour lequel j'utilise d'autres techniques. Mais là, vu le travail qui a été fait sur Amagloria avec Marie et qui a vraiment qui m'a permis d'expérimenter des techniques picturales que j'avais jamais expérimentées avant, qui m'a permis de plus avoir trop peur de ça parce que je faisais des choses plus simples avant. Ça m'a poussé à...
Ça t'a donné de l'audace.
Voilà, c'est ça. Ça m'a donné un petit tremplin, quoi. Et ça, c'est cool.
Mais c'est chouette parce que tout est imbriqué dans ton travail, en fait. Tout ton travail d'animation nourrit tes dessins, tes dessins nourrissent...
Tout est connecté.
C'est pas du tout compartimenté, isolé. C'est pour ça que tu progresses, tu disais, pour cette expo-là, que tu avais l'impression d'être allé encore plus loin que le mirage et d'avoir peut-être appris ou bien...
Oui.
Finaliser plein de choses qui étaient peut-être en incubation avant.
Oui, parce que En fait, je pense que Mirage, c'est une expo dont j'étais très fier, mais je pense que j'avais quand même un petit sentiment de pas être allé assez loin. Et là, quand j'ai vu l'accrochage à la Slow Gallery, je me suis dit j'ai progressé. Mais d'ailleurs, je te l'ai dit.
Oui,
je me suis dit je vois que j'ai progressé.
Mais tu t'en rends compte.
Alors, je dis pas que c'est très bien, mais en tout cas, je me dis que je suis plus à l'aise et que c'est plus fluide, quoi. Après, pour un artiste, je pense que c'est toujours émouvant quand on finit quelque chose. Et là, finir cette expo, c'était, quand je l'ai vu hier, c'était émouvant. Mais de la même manière, c'est marrant parce que, comme le film de Marie sort la semaine prochaine.
Alors il sort, il est dans quelle catégorie du coup, à Cannes?
C'est la semaine de la critique.
C'est la semaine de la critique, d'accord.
À Cannes.
Donc on va guetter ça.
Et il fait l'ouverture. Il sortira, la vraie sortie, elle est la fin de l'été au 30 août. Donc pour la rentrée, c'est parfait. Et aller au cinéma, c'est important. mais c'est vrai qu'elle m'a envoyé la bande-annonce hier sur Instagram, Marie. Et en fait, ça m'a vachement ému de voir les images, la musique, ces images que je connais déjà. En fait, de voir que le travail, il est fini, c'est... Ouais, je sais pas, il y a toujours un truc, c'est un instant suspendu en fait, où on se dit ok, c'est fini et puis on va l'accepter quoi. Et maintenant, il y a plus qu'à laisser vivre les choses. Mmh. Ça fait le truc part et puis elle va vivre sa vie tout seul. Et ça c'est bien, c'est ce qui nous permet de grandir.
C'est une très belle histoire aussi. Enfin, on va pas la, enfin, je sais pas si tu peux la pitcher ou pas rapidement.
Allez, l'histoire du film, le résumé.
Oui.
Alors je peux très rapidement, en fait ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est gardée par une nounou capverdienne donc qui vit en France et un jour sa nounou doit retourner au Cap-Vert, donc ce qui crée une séparation avec Cléo qui est la petite fille. Et pour entretenir le lien et puis pour restaurer aussi un peu le lien, Gloria invite Cléo à passer un été au Cap-Vert. Et donc le film raconte ça, il raconte cet été-là. Cléo, qui est petite, hein, qui a 5 ans, va passer un été au Cap-Vert avec Gloria, sa nounou, et elle va découvrir ce monde inconnu avec ses yeux d'enfant. Et moi, j'ai travaillé sur des séquences d'animation dont on va pas trop
dévoiler,
pas trop en dire, mais en gros, c'était passionnant. Et puis, bah, ça a été assez cohérent avec le reste de mon travail, parce que en fait, il y a tout ce truc de l'enfance, le fait de transmettre
du lien,
du regard d'un enfant.
Oui, c'était épanouissant comme travail.
C'est hyper fort. Mais ce qui est génial, c'est que Marie m'a poussé dans mes retranchements, en fait. Elle est pas venue me chercher. Elle est venue me chercher parce qu'elle savait que je travaillais la couleur et qu'elle aimait bien mon travail de couleur. Mais elle est pas venue me chercher pour faire ce que je faisais au crayon de couleur ou ce que je faisais dans l'édition jeunesse. Elle m'a dit, tu vas pas faire du dessin pour les enfants, en fait. Et moi, je disais, mais je comprends pas. Au début, je comprenais pas du tout. Mais elle me disait, non, moi, je veux que tu fasses de la peinture pour les grands, quoi. Un truc. Et ça m'a complètement bousculé. Mais c'était génial, hein. Je pense que j'avais besoin de ça.
Elle avait une vision, elle t'a fait confiance.
Oui, elle avait une confiance, elle m'a vraiment fait confiance. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que je pense que des gens qui savaient faire ça, elle aurait pu en trouver plein d'autres, hein. Mais elle a voulu que ce soit moi. Et ça, je me suis rendu compte que c'était une chance. Et j'en ai profité, pour vraiment le faire à fond. Et je pense que ça a vraiment fait évoluer ma pratique.
Oui, les femmes ont été souvent sur ton chemin de création.
Ah oui. Ouais, je suis entouré.
Mais oui, de bonnes fées.
Et de toute façon, en plus, je vais avoir une deuxième fille, donc c'est pour la vie. Hein.
C'est une bonne équipe.
Ouais, mais c'est vrai que j'ai des bonnes fées. Bah, tu en fais partie. Hein,
oh, si modestement.
Bon, Cyril aussi, mais...
Mais n'est pas une femme. Tu ne peux pas être une fée. Donc, eh ben, merci beaucoup Pierre-Emmanuel.
Mais merci.
Est venu le temps du tirage d'une carte de tarot.
Une seule alors.
Une seule carte, t'as droit qu'à une seule. Il faut tirer la bonne du tarot de Marseille. Cette carte que tu vas tirer, Pierre-Emmanuel, c'est une carte qui va donner un peu l'humeur, la couleur du temps pour les 3 mois à venir, enfin pour les mois à venir, mais à court terme.
Ok.
Une carte d'ambiance.
Ok. Je coupe.
Tu peux couper. Voilà. Hop. Alors elles sont toutes bonnes, hein. Il n'y a pas de mauvaise carte.
Ah.
Voilà, t'en sors une avec la main gauche. Ah, le jugement.
Ah, oula.
Non, mais...
Ça fait peur.
Oui, c'est une carte assez, pas grave, mais une carte de raison aussi, d'accord, d'équilibre et de choix à faire, de décision à prendre.
Ok.
Mais qui te... Enfin, les choses ne vont pas se construire sans que tu donnes ton accord ou ton avis. Les choses ne vont pas arriver malgré toi, c'est tu vas devoir décider de ce qui est bon et de ce qui est la meilleure voie à prendre prochainement.
D'accord.
Donc c'est une carte, on peut être... qui paraît comme ça sérieuse, mais ouais, c'est une carte qui est un déclencheur de bonnes choses, en fait.
D'accord.
Voilà, parce que la décision te revient. C'est toi qui choisis, qui va devoir faire un choix, en fait.
D'accord. Okay.
On va pas le faire à ta place. Donc, c'est plutôt positif, ça.
Oui, ça va.
Donc, comme s'il y avait plusieurs orientations possibles et qu'à un moment...
Ok.
Quelque chose de très important, une décision importante, évidemment. Ah, oui. Fondatrice.
Oh là, c'est un peu solennel quand même.
Oui, c'est solennel, c'est une carte solennelle. On rigole plus là.
Bon, bah, gloops.
Affaire à suivre.
Ok.
Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. On se voit ce soir pour ton vernissage.
Ouais, avec plaisir.
Ouais, il y aura les bières de Belleville aussi
oui,
qui
c'est
sont
vrai,
avec
ouais,
nous.
On n'a pas parlé de cette
ouais,
merveilleuse
collab,
collaboration.
Ouais, très sympa.
Mais ouais, ils seront là, ils sont super.
Oui.
Et ils brassent des bières à Belleville.
Ouais, c'est incroyable. Oui,
à Jourdain.
Oui.
Rue Jean-Baptiste Dumais. Allez-y, ils sont très sympas.
Et on confirme. Et ben, à ce soir. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, de ta bonne compagnie.
À bientôt et merci beaucoup.
Salut.
Salut.